Cobuzz.com. Rencontre
haute fidélité
par Marc Sisman.
Avec le temps, va tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, va tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.
Bonjour Guy Boselli.
Bonjour Marc.
Guy Boselli, vous êtes monsieur Sand & Colors.
Oui.
Sand & Colors, c'est un espace que vous avez ouvert en 2007, c'est ça?
Début 2007, effectivement, après avoir créé la société fin 2006.
Voilà, 2007. Alors un espace un peu particulier, qui se trouve à côté du Parc Monceau, puisque c'est pas un auditorium, on pourrait dire, un peu classique. C'est un auditorium où on peut aussi non seulement écouter, mais regarder. Puisque vous avez mêlé l'art et la musique, non pas que la musique ne soit pas de l'art, mais on pourrait dire de l'art visuel. Il y a des tableaux notamment. Mmh. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on peut y trouver. Vous êtes, évidemment, on y trouve principalement du matériel de haute fidélité, puisqu'en général, quand on est sur Cobuzz et qu'on parle de matériel, c'est plutôt pour parler de matériel de haute fidélité. Votre parcours dans la musique était quand même antérieur à 2007, puisque vous avez d'abord travaillé chez Sony Music, vous étiez au classique et au jazz, et je crois qu'ensuite, au milieu des années 2000, vous avez repris une société qui s'appelait Ifi Station 2001, qui était un importateur, c'est ça?
Oui, absolument, vous avez quasiment tout dit.
J'ai tout dit, vous n'avez plus rien à dire. Comment on passe justement, quand on est dans une maison de disques, dans une major, au monde de l'audiophilie? J'imagine que jusqu'ici, vos oreilles de mélomane n'étaient pas juste que les oreilles de mélomane, mais aussi des oreilles d'audiophile.
Ah oui, absolument. Ça a été une passion commune depuis toujours. J'aime la musique et j'aime le son. C'est pas toujours le cas, mais certains séparent les deux. Pour moi, c'est absolument indispensable de mêler les deux, justement. Et donc, il y a eu une première étape chez Sony, où on a vu d'ailleurs le plaisir de se croiser à l'époque au cours d'un voyage de presse aux États-Unis pour rencontrer Manfred Marsalis.
C'était la semaine dernière, c'est ça?
Il y a près de 20 ans. Et j'ai travaillé donc pendant 6 ans environ chez Sony, début, milieu des années 90, avant de partir dans l'Internet, qui était naissant à ce moment-là, en ayant déjà le sentiment que la musique se consommerait un jour en ligne. Alors pas de la façon dont elle se consommait à l'époque, pour moi en tout cas, de manière compressée, puisque là j'avais le sentiment qu'on perdait en qualité, et c'était pas ma tasse de thé, puisque j'étais déjà audiophile en plus de travailler dans une maison de disques. Donc j'avais toujours cette passion qui consistait à essayer de reproduire, en tout cas chez moi, la musique dans les meilleures conditions possibles. Une étape professionnelle dans l'Internet ensuite, pendant en gros une dizaine d'années, donc milieu des années 90, milieu des années 2000. Et puis à partir de 2005-2006, l'envie d'avoir ma propre activité, ma société, de devenir indépendant, dans un secteur que j'aimais. Donc je me suis naturellement tourné vers le monde du son et des produits de qualité dont j'étais déjà utilisateur. Et c'est avéré qu'à ce moment-là, la société Ifi Station 2001, dont j'étais client depuis très longtemps, mes premiers salaires ont dû aller chez eux directement, je pense, était à vendre, puisque tout simplement ses fondateurs prenaient leur retraite. Et comme j'étais en recherche d'entreprise, les choses se sont faites assez naturellement. Donc j'ai créé la société Sound & Colors fin 2006, en novembre exactement, il y a 6 ans ce mois-ci. Et après quelques travaux sur un local que j'ai trouvé donc rue de Monceau, 50 rue de Monceau, nous avons ouvert en février 2007 pour démarrer l'activité.
À partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage de l'audiophilie, mais côté sur scène, on va dire, vous aviez tout de suite à l'idée, à l'esprit, cette volonté de faire un lieu, mais un peu différent des autres, pas le...
Oui, quand j'ai eu ce projet-là en tête, je dirais que le lieu a été déterminant. En fait, ce local qui fait près de 250 mètres carrés a contribué à ce que je prenne cette décision de m'engager dans cette voie, parce que j'ai tout de suite perçu qu'on pouvait en faire quelque chose de différent. Et qu'il avait plus l'air d'ailleurs d'une galerie d'art que d'un magasin classique, ce qui me convenait parfaitement, puisque j'ai effectivement, à côté de la musique, d'autres passions, notamment la peinture. Et j'ai la chance d'avoir un ami peintre dont j'aime beaucoup les œuvres. Et j'ai tout de suite imaginé qu'on pouvait exposer ses tableaux à cet endroit. Le nom du lieu, évidemment, n'est pas du hasard. Sound & Colors, son et couleurs. Il y a une allusion directe à cette dimension-là. Il y a aussi un clin d'œil à Kandinsky et Schoenberg, puisque Kandinsky disait qu'il peignait en entendant des sons et Schoenberg composait en voyant des couleurs. Donc c'était une façon de boucler la boucle et d'avoir l'outil, je dirais, qui me permettait de mettre en œuvre la vente de matériel de haut de gamme de manière un petit peu différente. Il ne s'agissait pas de créer le énième lieu, la énième boutique de Hi-Fi à Paris, mais d'avoir une approche effectivement un peu différente.
Vous saviez au moment d'ouvrir les marques que vous vouliez travailler principalement, comment ça s'est fait ?
Oui,
l'audiophile que vous étiez, oui, avait vraiment une connaissance complète du marché, ou vous êtes vraiment plus penché sur le sujet à ce moment-là ?
Alors, complète, elle ne l'est peut-être jamais, parce qu'il est difficile de tout connaître sur ce marché pléthorique, sur lequel il y a des centaines de marques différentes. J'avais déjà effectivement une bonne connaissance, puisque je participais à de nombreux salons à titre purement personnel à l'époque. J'avais une longue expérience du choix des produits, là aussi à titre personnel. Et reprenant 2001, je reprenais les marques qui étaient distribuées par 2001 à l'époque, à savoir Karma, Air, Goldmoon. Donc il y avait déjà un noyau de marques que je connaissais bien pour les utiliser moi-même, qui me permettait de démarrer l'activité. Mais assez vite, j'ai eu envie d'élargir ce catalogue de marques avec d'autres produits. Pour deux raisons. La première, Hi-Fi Station 2001 travaillait d'une manière très particulière, encore plus exclusive, puisqu'on était à une heure de Paris, dans une maison, uniquement sur rendez-vous. Donc il y avait un positionnement très très élitiste, qui faisait qu'il n'y avait pas dans leur catalogue de produits plus accessibles, et j'avais envie de proposer aussi un niveau de qualité à des prix plus accessibles pour des gens qui seraient de nouveaux clients à cette adresse de la rue de Monceau. Et par ailleurs, je prenais quand même acte du fait que de nouveaux arrivants se présentaient sur ce marché avec des produits de qualité, et qu'il était important pour moi de garder les yeux et les oreilles ouvertes pour essayer de ne pas passer à côté des bons produits de demain, bon, ce qui était le cas, je pense, puisque j'ai introduit de nouvelles marques en France qui n'étaient pas distribuées encore à ce moment-là, et qui ont, quelques années plus tard, confirmé qu'elles étaient vraiment des marques de référence sur le marché mondial. Je pense notamment à Magico en enceinte, Solution en électronique, par exemple.
Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato. Il cuore mio vorrebbe cancellare estate. Il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. Forse un po' di pace tornerà. profuma di ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di
au moment où vous avez ouvert cet espace, finalement, c'est aussi coïncidé un petit peu avec une sorte de démocratisation de l'audiophilie. On a l'impression qu'on est quand même un petit peu plus... On s'éloigne de ce à quoi ressemblait l'audiophilie il y a 20 ans, où finalement, le ticket d'entrée était quand même très, 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 très élevé. On arrive à avoir des produits... Alors certes, la gamme est vaste, mais on arrive à avoir de la qualité à des prix, disons, un petit peu plus abordables.
C'est vrai. Et en même temps, il y a un paradoxe qui fait que... Enfin, qu'on constate, en tout cas, les produits haut de gamme n'ont sans doute jamais été aussi chers qu'aujourd'hui. Donc je dirais que le marché s'est vraiment réparti élargi. Sur ces deux extrêmes. C'est élargi avec effectivement des produits abordables de haut niveau aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de Micromega avec ce nouveau convertisseur à moins de 300 euros qui fait des merveilles. Il est clair que d'un autre côté, on a des produits aujourd'hui qui sont parfois extrêmement chers. C'est pas toujours justifié d'ailleurs, je suis assez réaliste sur le sujet. Il y a des approches marketing un peu basiques qui font que certains positionnent des produits très chers en considérant qu'ils vont se vendre parce qu'ils sont très chers, simplement. Non, ça ne suffit pas, il ne faut pas prendre les acheteurs pour des imbéciles, ils sont tout à fait capables de se rendre compte quand un produit marche ou pas. Mais en tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, on peut se faire plaisir sur des tarifs relativement abordables. Le rôle du revendeur est quand même essentiel dans cette démarche, parce que,
comme je vous disais tout à l'heure,
voilà, il y a pléthore d'offres, donc il faut être extrêmement sélectif. Il est clair qu'on a, nous, un positionnement clairement haut de gamme, qui est assumé par le choix du lieu, la façon dont on présente les produits, les tarifs de ces produits-là. Mais on a quand même quelques produits plus abordables qu'on a choisis très attentivement, justement parce qu'on a des référents de grande qualité qui nous permettent d'être très sélectifs. Et je considère que le premier rôle d'un revendeur, y compris sur des produits abordables, c'est de les choisir, de les sélectionner et de ne pas proposer une multitude de marques sans cohérence en fait entre elles. Quand quelqu'un pousse votre porte, je pense qu'une première partie du travail est fait en lui proposant des systèmes cohérents qui fonctionnent bien ensemble et en l'aidant dans sa démarche de choix qui est souvent très compliquée dans cet univers.
Quel est le profil de la personne qui pousse la porte de Sound & Color, j'imagine?
Alors chez nous, il faut sonner, ce qui est déjà un peu particulier. donc peut-être que ça a une influence sur le profil. Il n'y a pas vraiment de profil type, en fait, en réalité. Bon, tous ces gens-là sont amoureux de musique, ça c'est certain. On est sur un créneau où moi je recherche vraiment la vérité en matière de reproduction. Donc il ne s'agit pas de faire de la hi-fi spectaculaire. Donc on a des gens qui sont pour la plupart des vrais mélomanes, qui sont des amoureux de musique, qui en écoutent beaucoup, qui vont au concert. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, chacun fait selon ses moyens, bien entendu. Comme je vous le disais, on a un positionnement qui fait qu'on a plutôt effectivement une clientèle aisée, mais je suis ravi de voir un jeune pousser une porte me disant, bah, écoutez, voilà...
Mon budget s'étend.
J'ai un budget qui est limité, mais j'ai envie de me faire plaisir et surtout, j'ai pas envie de me tromper. Et on va essayer, évidemment, de lui proposer quelque chose de cohérent, même sur des budgets raisonnables.
La gamme justement des budgets chez vous, j'imagine, vous avez dit les deux extrêmes.
Oui, je dirais qu'on commence souvent pratiquement là où s'arrêtent beaucoup d'autres revendeurs, mais bon, c'est un choix clairement assumé. J'ai clairement du mal à proposer un système aujourd'hui à moins de 4000 euros pour avoir quelque chose de cohérent, mais on peut déjà à ce prix-là avoir beaucoup beaucoup de plaisir musical. Et puis dans l'autre sens, il n'y a quasiment pas de limite. Enfin, notre plus grosse installation vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, mais là aussi quelque chose d'absolument exceptionnel.
En termes d'auditorium, comment fonctionne
votre espace? On a 4 pièces d'écoute fermées. Le principe est que dans chacune de ces pièces, il y a un système installé en permanence. Donc, on propose à l'écoute systématiquement tout ce qui est installé si quelqu'un arrive de manière impromptue. Si maintenant il y a une demande particulière, on installe spécifiquement le produit en question. On passe beaucoup de temps à régler les enceintes. Donc il ne s'agit pas de dire ok, on sort une enceinte, on en met une autre à la place et on fait l'écoute. Ça nous prend souvent plusieurs heures. C'est un réglage extrêmement méticuleux et l'expérience montre qu'on a des résultats qui peuvent être très différents. Si une enceinte est bien en place ou pas, ça a des conséquences extrêmement importantes. Donc il s'agit dans ce cas plutôt effectivement de travailler sur rendez-vous, sachant que tout ce qui est installé est écoutable à tout moment. On a ensuite une grande pièce d'accueil dans laquelle on fait également quelques démonstrations, mais qui acoustiquement est un peu plus compliquée. Donc on se concentre essentiellement sur les quatre auditoriums fermés.
Votre espace est né alors que naissait également déjà depuis quelques mois, voire quelques années, la musique dématérialisée.
Oui.
Comment vous avez, en tant que, à double niveau, d'abord en tant que mélomane, et ensuite en tant que patron de cette entreprise, et donc de voir aussi peut-être les clients, j'imagine, évoluer.
Complètement. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai toujours été très attentif à ça, et quand j'ai quitté Sony, comme je le disais, j'avais déjà pressenti qu'il y aurait une évolution incontournable de la façon de consommer la musique. En revanche, à titre personnel, je n'ai jamais téléchargé de musique jusqu'il y a assez peu de temps, pour une raison très simple, c'est que la musique qui était proposée en ligne était un format dégradé, en grande partie lié au MP3, et qu'il était hors de question pour moi d'écouter de la musique dans ces conditions, puisque sur une chaîne performante, on se rend compte immédiatement des limites de la compression et ça devient vraiment quelque chose de désagréable en fait à entendre. Donc pendant très longtemps, on nous parlait assez peu de cette façon de consommer la musique. Il est vrai que depuis maintenant un an ou deux, beaucoup de gens nous interrogent sur les solutions disponibles dans ce domaine. Et je constate aussi que c'est pas lié à un âge ou une génération particulière. On a vraiment des gens de toute génération qui s'intéressent à ça, même des gens un peu âgés qui se mettent à vouloir écouter de la musique à partir de fichiers téléchargés. Et la très bonne nouvelle, et vous êtes en partie un des acteurs incontournables dans ce domaine, c'est l'arrivée de fichiers de haute qualité, Studio Master chez vous, donc en gros équivalent ou se rapprochant au plus près de la bande master, qui pour moi justifie maintenant le fait qu'on ait une raison et un intérêt à aller télécharger de la musique, c'est-à-dire tout simplement avoir mieux que ce que l'on a sur un CD. Il ne faut pas oublier que le CD, c'est un format qui a près de 30 ans, qui n'a pas évolué depuis, qui au départ était né quand même là aussi avec la vocation de compresser la musique, puisqu'en fait, si on fait un rapport entre ce que l'on a sur un CD et une bande master, on se rend compte qu'on n'a qu'un quart des informations, on a un rapport de compression de 1 à 4. Si on mettait l'équivalent de manière non compressée, il faudrait plutôt utiliser un Blu-ray. Donc en gros, avoir 3 gigas d'informations au lieu de 750 mégabits, donc on a bien ce rapport de 1 à 4. On peut penser que si le marché du disque avait moins souffert, le format aurait certainement évolué, le format physique, pour aller dans ce sens-là. Bon, on a vu malheureusement la mort du SACD pratiquement au moment où il arrivait, mais à une époque où économiquement, les gens n'avaient plus envie de passer à ce type de format. Aujourd'hui, grâce au téléchargement, on retrouve des formats de très haut niveau qui sont donc supérieurs au CD. Et moi, ça me rend très optimiste parce qu'il y a une vraie raison aujourd'hui à télécharger de la musique en ligne. On a pendant longtemps souffert d'une dégradation du son à cause du support numérique dans la musique, alors que parallèlement, tous les supports numériques permettaient une progression en fait. C'était le cas dans la vidéo notamment. On est passé de la VHS au Blu-ray et il est évident qu'un Blu-ray fonctionne mieux qu'une VHS. Le jeu vidéo également a été un autre exemple d'une progression des supports. Prenez une PS3, enfin ce genre de choses par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a très longtemps, on a gagné en qualité de restitution. La musique a fait le chemin inverse, très paradoxalement. On a régressé, on a eu un support qui s'est dégradé au nom de la portabilité, bien entendu, il fallait que les informations soient les moins lourdes possibles. Aujourd'hui, grâce au progrès des capacités des disques durs, du très haut débit maintenant avec de la fibre optique, je suis assez optimiste pour un usage d'une musique de qualité en téléchargement.
gens passent votre porte après avoir sonné. On commence à vous demander des dacs, j'imagine.
Oui, on commence à nous demander, alors pas forcément des dacs, mais on me dit, j'aimerais écouter de la musique depuis mon ordinateur, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Donc là, on a différentes solutions. Il y a des solutions sans fil, liées à des fonctionnalités Wi-Fi. Certains amplis intègrent aujourd'hui la possibilité de jouer de la musique sans fil, avec des formats plus ou moins propriétaires. Alors, beaucoup au départ avec des bornes AirPort intégrées à l'intérieur de ces appareils. Aujourd'hui avec des solutions propriétaires comme celle qu'a développée De Vielay par exemple, qui permet de jouer du Wi-Fi en haute définition, ce qui est extrêmement intéressant. On a aussi tout un ensemble de solutions où là il s'agit de se raccorder par un câble USB à un ordinateur. Et on a différents types de convertisseurs, certains sortant un signal analogique que l'on va envoyer dans la chaîne, sur l'ampli ou le préampli, d'autres sortant un signal numérique que l'on va convertir effectivement avec un convertisseur séparé. Donc on a un éventail aujourd'hui de solutions très large qui fait qu'on arrive à avoir vraiment une restitution de grande qualité à partir d'un ordinateur, si en amont, bien entendu, le choix du format a été bien fait, s'il est non compressé, et etc., etc. Toute la chaîne reste importante dans la reproduction du signal.
Est-ce que ces nouveautés vous ont fait repenser, revoir le son différemment ? Votre approche d'audiophile a évolué par rapport à ces nouvelles technologies,
à ce
nouveau support ?
Paradoxalement, elle me refait écouter des vinyles aussi. Alors, ça va sans doute vous surprendre.
Bah, c'est ce qui se passe un peu finalement. On se rend compte qu'actuellement, il y a la grosse mode du retour du vinyle.
Et c'est les deux, le
premier support et le dernier.
Exactement. Et je pense qu'entre les deux, c'est probablement le CD qui disparaîtra avant le vinyle, ce qui paraît assez incroyable. Mais tout simplement parce que quand vous prenez un vinyle et que vous le reproduisez dans de bonnes conditions, vous avez un grand plaisir musical. Et là aussi, ça s'explique. Le vinyle n'est pas un format compressé. Donc aujourd'hui, un vinyle neuf, et on trouve à peu près tout ce que l'on veut en format neuf, bien pressé, a plus d'informations qu'un CD à restituer. Alors après, il y a des problèmes mécaniques et électriques liés à la platine, mais il y a des platines de grande qualité, avec d'ailleurs là aussi de nouveaux entrants qui font des produits absolument exceptionnels. On a supprimé toute suspension, tout ce qui pouvait produire du bruit, manger de la dynamique, etc. On a aujourd'hui des produits extrêmement performants. Et on se rend compte que quand on écoute un vinyle ou un fichier haute définition, on va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on gagne à la fois en douceur et en définition. On a plus d'informations et moins d'agressivité. Et c'est vraiment ce que l'on retrouve quand on va au concert et que l'on écoute de la musique acoustique, en tout cas en direct, qu'elle soit classique ou qu'il s'agisse de jazz. C'est vraiment pour moi un objectif que j'essaie d'atteindre à travers les systèmes que l'on vend, c'est aller vers cette définition ultime qui n'est pas chirurgicale du tout, contrairement à ce que l'on peut imaginer a priori, mais qui au contraire vous permet d'avoir une restitution dépourvue totalement d'agressivité. Et un bon vinyle fait ça, et un bon fichier Studio Master fait ça aussi aujourd'hui.
Comment vous fonctionnez avec, j'allais dire, le portefeuille de marques que vous distribuez? J'imagine que vous vous rendez régulièrement dans les salons, voir les nouveautés, etc. Comment vous êtes fixé un nombre limite de marques que vous travaillez?
Comment vous fonctionnez? Il ne s'agit pas de tout distribuer, comme je le disais tout à l'heure. Je considère que mon premier rôle, c'est de bien choisir les produits et de bien choisir les marques. Donc aujourd'hui, en gros, je distribue une dizaine de marques, ce qui est déjà beaucoup, donc je ne cherche pas à en ajouter nécessairement rapidement. En revanche, si je me rends compte...
Garder les oreilles ouvertes, quoi.
Exactement. À l'étranger, au cours d'un déplacement, qu'un produit sort vraiment du lot, présente des caractéristiques intéressantes, je vais m'y intéresser. Je vais effectivement chaque année à Las Vegas, au CES, depuis que j'ai commencé mon activité. Je vais à Munich, j'étais à Milan en septembre, donc je me déplace beaucoup. Je connais maintenant beaucoup de personnes dans cet univers, donc j'échange également avec des gens dans le monde entier. Et très très vite, quand un produit est vraiment différent des autres, on s'en rend compte et il a assez vite vocation à faire l'unanimité de manière tout à fait large au niveau international. Et ça a été le cas, je le redis, pour Magico Solutions par exemple. J'ai commencé, je devais être un des tout premiers en Europe à distribuer ces produits-là à l'époque. Bon, aujourd'hui, ils sont devenus absolument incontournables. Donc si demain, un produit de ce type apparaît sur le marché, je vais m'y intéresser.
Alors, est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ou pas? Chez vous, c'est comment?
Eh ben oui, je confirme le dicton, c'est-à-dire qu'après avoir eu beaucoup, beaucoup de matériel chez moi pendant des années...
Le meilleur depuis, dans votre magasin, de,
voilà,
votre auditorium,
exactement. Depuis que je travaille, j'ai malheureusement plus grand-chose chez moi, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps à écouter de la musique à mon auditorium, et d'ailleurs, j'y passe aussi du temps le soir ou le week-end, parce que quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir... j'ai des installations là-bas qui sont à la fois hors normes en termes de prix et de taille aussi, que j'aurai un peu de mal à installer chez moi, donc évidemment je me fais plaisir en écoutant de la musique même très tard le soir à l'auditorium et tout seul, et c'est toujours un grand plaisir.
Quelles sont les installations, les associations actuelles que vous mettez principalement en avant dans votre auditorium? Alors peut-être qu'on peut voir un peu au milieu, puisque vous nous avez dit que ça allait de à peu près 4000 euros jusqu'à plus l'infini.
Oui, oui.
Alors sans aller peut-être jusqu'à plus l'infini.
On en parlera quand même. Voilà. Mais je dirais que si je dois donner trois échelles d'associations, en début de gamme, sans que ce soit péjoratif du tout, je l'ai cité tout à l'heure, on recommande plutôt Micro-Méga en électronique. On est très satisfait des résultats que l'on obtient sur des budgets vraiment raisonnables, avec un plus qui est la possibilité de jouer des fichiers en Wi-Fi. Donc c'est quand même une belle avancée qui a été réalisée par la marque. On a une marque d'enceinte fabriquée en Finlande qui s'appelle Penaudio, qui commence à 1395 euros la paire, donc on est sur un budget très raisonnable. Et avec ça, on peut constituer vraiment une jolie chaîne. On a d'ailleurs eu il y a quelques jours encore un jeune couple qui est passé écouter sans connaître ces produits, ce système, et qui était très surpris. Et d'ailleurs, la jeune femme disait qu'elle n'avait jamais entendu ces disques comme ça, même à un budget très raisonnable. Donc ça fait plaisir. Ensuite, si on monte en gamme, on a une marque américaine que l'on distribue qui s'appelle Air, A-Y-R-E, qui est vraiment une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que ce sont des gens extrêmement sérieux dans leur approche des produits. C'est-à-dire que les produits ont une durée de vie très longue. Il y a systématiquement des kits de mise à jour qui sont proposés dès qu'une nouvelle version sort, à des budgets très raisonnables. Donc on a une grande, grande fidélité, en fait, de la part des gens qui ont choisi cette marque. Et des résultats d'écoute, là aussi, très équilibrés, avec un premier ampli intégré à moins de 4000 euros, donc on est quand même sur des budgets raisonnables, et on arrive à avoir des systèmes de grande qualité sans dépenser des sommes folles. Donc là, on recommande des associations autour de ces électroniques, avec des enceintes Karma, que l'on distribue également, pour avoir des systèmes très musicaux, pas trop volumineux, pas trop cher, et avec lesquels on peut déjà se faire un grand, grand plaisir à l'écoute. Ensuite, si on monte d'un cran, notre association un peu fétiche aujourd'hui, c'est Magico et Solutions, dont je parlais. Donc Magico, marque d'enceinte américaine, fabriquée en Californie, entièrement en aluminium. Donc c'est vraiment une particularité qui a été développée par la marque. Charge close, donc une approche là aussi assez différente. Et pour moi, probablement aujourd'hui, l'enceinte la plus naturelle qui soit en termes de restitution de timbre, notamment de vérité musicale, ce qui est d'ailleurs aussi une définition qu'on pourrait appliquer aux électroniques solutions, qui elles sont fabriquées en Suisse. On a une très très grande fluidité, beaucoup de dynamique et beaucoup de douceur en même temps. Donc vraiment un équilibre extrêmement proche de la vérité sonore, en fait, tel qu'on peut l'entendre au concert.
We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. everything and tenderly. The kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A lover like ours could never die. Baby, near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine ain't gonna never, 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 never.
Comme vous dans les différents grands salons d'audiophiles aux quatre coins du monde et qu'on a déjà toute cette ces satisfactions avec toutes ces marques, est-ce qu'on prend encore des claques par rapport à des installations, des sons,
c'est
des produits, des
bonne
objets,
question,
des fabrications?
Un peu moins honnêtement, puisque là j'estime qu'on a, notamment sur notre gros système, on a la chance en ce moment d'avoir le haut de gamme de chez Magico, qui est la Q7, qui est une enceinte absolument extraordinaire, bi-amplifiée avec 4 blocs mono-solutions. Je vous avoue, faire mieux, c'est difficile. Très clairement, je le dis de manière très objective d'ailleurs. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, j'en suis conscient, mais je pense que là, on atteint un niveau de vérité qui est, dans la reproduction sonore, assez exceptionnel. Donc on peut trouver sur des salons des choses peut-être plus spectaculaires, plus impressionnantes a priori, mais il ne faut pas oublier que quand on achète une chaîne, on l'achète pour vivre avec tous les jours pendant plusieurs années. Donc je mets souvent en garde aussi les gens contre des démonstrations un peu rapides, où au bout d'un quart d'heure, on a le sentiment d'avoir déjà décidé que c'était le système de sa vie, parce qu'on a été très impressionné par 2 ou 3 disques un peu démonstratifs. Et puis une fois chez soi, on a du mal à vivre avec ce genre de système, parce que y a une couleur qui est donnée, il y a quelque chose qui a pu vous impressionner, mais qui finalement n'est pas vraiment naturel, et que vous allez retrouver systématiquement d'un disque à l'autre, alors qu'au contraire, un bon système va vous faire changer totalement d'univers quand vous allez changer de CD, en fait. Donc ça, c'est très important d'avoir cette faculté à chez soi, avoir des ambiances qui seront différentes selon les disques que vous allez passer. Donc aujourd'hui, je peux effectivement entrer dans une pièce, dans un salon, et me dire « Oula, tiens, c'est assez impressionnant ». Mais j'essaie ensuite de passer un peu de temps et de remarquer s'il y a ou pas une coloration systématique dans la reproduction qui est proposée par un système. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement rédhibitoire. Si c'est le cas, pour moi, c'est un mauvais système, aussi spectaculaire soit-il.
À quoi va ressembler, selon vous, le mélomane de demain, en termes de pratique d'écoute, par rapport à ces... modification de support, la partie nomade de plus en plus, etc. Intégration également des systèmes dans l'habitat.
Oui. Je suis assez optimiste finalement, contrairement à pas mal de mes confrères, notamment grâce aux progrès qui sont faits sur les bandes master qu'on va enfin pouvoir écouter chez soi dans de bonnes conditions. Je pense qu'il y a toute une population de jeunes mélomanes qui est appelée à découvrir cet univers et à se rendre compte qu'on peut écouter de la musique avec beaucoup plus de plaisir que sur un casque en MP3 dans la rue. Et je pense que ces gens-là, tôt ou tard, se rendront compte qu'il y a vocation et matière à avoir chez soi, même sur des sommes relativement abordables, la possibilité d'entendre beaucoup plus de choses que ce qu'on peut entendre sur un casque habituellement. Donc ça me rend assez confiant sur les développements futurs. Après, en matière d'intégration, c'est un marché un peu différent. Nous, on est assez peu présents sur ce marché, qui est souvent, enfin en tout cas qui était souvent lié au multicanal et à la vidéo. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les gens ont tendance à séparer en fait ces deux systèmes. Et là aussi, c'est un des éléments qui me rend optimiste, et que de plus en plus de gens qui étaient allés vers le multicanal reviennent à la stéréo traditionnelle, classique, et sont conscients qu'il est difficile de reproduire la musique dans les meilleures conditions qui soient à partir d'un système qui a d'abord été créé pour passer des films. Donc très souvent, on nous demande maintenant d'avoir un petit système multicanal pour regarder un film, et en fait, il y a un retour à de belles installations stéréo pour écouter la musique. Donc cet élément-là se dessine et se confirme de plus en plus. Je pense que tout le monde maintenant a un écran plat chez soi. Tout le monde est équipé en vidéo de manière qualitative avec un lecteur de Blu-ray. Et du coup, ça ouvre des espaces de nouveau pour la haute fidélité de qualité à domicile.
Vous avez dit, je ressors mes vieux vinyles,
oui.
Qu'est-ce que vous ressortez en ce moment? Vous avez ressorti quoi?
Ah, si vous saviez, il faudrait passer. Oh, ben, j'avais par exemple, c'est mes disques d'adolescents hein, qui ont dormi au grenier pendant une trentaine d'années. J'avais par exemple tous les Kraftwerk à l'époque que j'avais achetés et que je suis très content de retrouver. D'ailleurs, je vois que ces disques-là sont réédités, donc c'est assez marrant. J'avais aussi mon coffret original de Public Image Limited, pile, dans sa bobine
Metal
de
box.
Film, exactement, Metal Box. Donc il y a quelques pièces comme ça assez intéressantes. Lucio Battisti dans un autre genre. Voilà. Donc je redécouvre cette musique, UB40, UB40, enfin des choses qui étaient là comme ça dans les cartons depuis un moment. Les Pink Floyd, bien entendu, de l'époque, incontournable.
Est-ce que quand on est justement dans un auditorium toute la journée, finalement on écoute de la musique tout le temps, ou est-ce qu'on repose ses oreilles de temps en temps?
Alors ça aussi c'est une bonne question, parce que je suis souvent surpris, pour ne pas dire effaré, par le fait que beaucoup de revendeurs IFI n'écoutent pas de musique.
Ou
toujours le même album, même pas les mais le même. Et alors je suis un peu critique en disant ça, mais je trouve ça totalement anormal, donc j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, parce que j'en fréquente aussi un certain nombre, dans la mesure où mes produits sont distribués en province. Donc on a l'occasion de rencontrer des revendeurs, et y en a certains avec qui ça se passe très bien, je ne veux pas généraliser, il y a des vrais amoureux de musique, mais ils sont clairement une minorité. Il y a des gens qui ne vont vous parler que de technique, et quand vous leur demandez de s'asseoir pour écouter un album, même chez vous quand vous les recevez, au bout de 15 secondes ils se lèvent, parce qu'ils ne peuvent pas rester plus de 15 secondes face à une chaîne pour écouter de la musique. Donc c'est quand même relativement inquiétant, et effectivement si vous leur demandez ce qu'ils écoutent,
c'est encore plus inquiétant.
Est encore plus inquiétante. Bon, c'est un constat, mais c'est vrai que c'est assez surprenant.
Bien, alors on peut écouter de la musique, mais pour de bon, on conseillera à chacun d'aller chez Sound & Colors, au 50 rue Monceau, dans le 8e arrondissement, à Paris. Merci Guy Boselli.
Merci Marc. Thank you.
cobuzz.com. Rencontre
haute fidélité
par Marc Zisman.